Des corps, de la bricole et un de ces merdiers.
Sur Radio Piquesse.
La semaine dernière, j'avais commencé à parler de racisme. On va continuer dans la deuxième partie. Charline qui préparait des trucs aussi. On a parlé rapidement de on avait entendu Assa Traoré parler de la mort de son frère. Donc juste avant de partir dans cette deuxième partie, quand même, il y a une expertise qui a été faite à nouveau sur la mort d'Adama Traoré et qui va permettre, en fait, qui démontre clairement que les gendarmes sont mis en cause dans la mort d'Adama Traoré. Et donc, on attend le procès maintenant avec ces nouveaux éléments. Et du coup, je voulais quand même profiter pour... J'avais un petit bout où on entendait justement ce qu'avait dit... on entend un extrait d'un journal télévisé très peu de temps après la mort d'Adama Traoré. Et on va entendre le discours qu'ils avaient à l'époque et Assa Traoré commenter...
Dans l'actualité également, une marche de soutien à la famille d'Adama Traoré, mort il y a 11 jours lors de son interpellation. Plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées à Paris quand cette manifestation a finalement été empêchée pour des raisons de sécurité. La famille d'Adama Traoré s'est vue opposer le refus de la justice d'ordonner une troisième autopsie. Les deux qui ont été réalisées sur le corps de ce jeune homme de 24 ans arrivaient aux mêmes conclusions. Sa mort n'était pas due à des violences policières, mais ses proches continuent à en douter.
Dès le premier jour de la mort de mon frère, sur Beaumont, nous avons pu avoir plusieurs médias, en les comptant par dizaines et même parfois par vingtaines, qui sont là. Sauf que ce 19 juillet, c'est mon frère qui est mort dans les locaux de la gendarmerie. Il s'appelle Adama Traoré, mais les médias n'en parlent comme un jeune homme et mettent en avant ses quelques voitures brûlées. La tristesse, il ne parle pas de la tristesse et de la peine de notre famille. Dans un second temps, Adama ne s'appelle plus Adama, mais s'appelle Adamo ou Adami, où son nom est écorché ou dit sur les bouts des lèvres. Et dans un troisième temps, Adama est criminalisé. Il ne faut pas oublier que dans toutes ces histoires de crimes policiers ou de gendarmerie, ce sont les victimes. Et on ne parle pas des coupables. Et les coupables de ce 19 juillet sont les gendarmes. On criminalise, ces médias vont criminaliser notre affaire, vont criminaliser notre famille. Donc tout de suite, un combat contre les médias, un rapport de force se fait. Donc on se bat, on se lève, on va marcher dans les rues pour montrer justice et vérité et montrer notre force et montrer aux médias que la vérité, elle n'est pas sur ces papiers, sur ces journaux.
Donc voilà. Ça y est, la vérité semble être rétablie. J'espère que le procès va bien se passer.
Ouais, alors moi j'en profite pour raconter. Hier, on est allé écouter Samir Eliès, qui était invité dans un centre social à Plourin-les-Morlaix, qui organise là des rencontres, des débats, etc., autour du thème de discrimination. Samir Eliès, du coup, il a fait partie du MIB, Mouvement Immigration et Banlieue, et il est un soutien du comité Adama aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient de Seine-et-Marne, de Damary-l'Hélice, un quartier de Damary-l'Hélice qui a connu, comme tous les quartiers populaires, en fait, qui connaît depuis, pour simplifier, la fin... de la colonisation, qui connaît en fait une espèce de néocolonialisme quotidien avec violence policière, une espèce de politique d'État raciste, voilà. Samir Eliès, c'était une rencontre très 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 intéressante, franchement, cette semaine-là, ces deux semaines qui font le centre social de Plourin-les-Morlaix, c'est formidable. Et il est revenu un petit peu le sujet, c'était vraiment son engagement, etc. Il a parlé de la mort d'Adama Traoré et il a dit les policiers français, la BAC et la gendarmerie ont une technique de maîtrise des individus qui est la clé d'étranglement, qui est interdit aux États-Unis. Hein. Bon, les États-Unis ne sont pas un exemple. Mais c'est interdit aux États-Unis, c'est interdit en Angleterre, c'est interdit dans plein de pays, c'est autorisé en France, c'est un permis de tuer. Permis légal de tuer. C'est comme ça qu'en parle Samir Eliès. Je pense qu'on ne peut être que d'accord avec ça. La preuve en est. Il y a des centaines de morts en 20 ans de jeunes issus des quartiers. Ils sont assassinés. Aucun flic n'a été jugé. Jamais. Ça veut bien dire qu'il y a un permis légal de tuer.
Bon, bah écoute, c'est pas mal pour. On va enchaîner sur une chanson de Kerry James que tu voulais écouter, Charline.
Oui, absolument.
Elle s'appelle Amal. Ça t'a fait penser, en fait, la semaine dernière, parce qu'on a parlé de Amal Bentounsi, la sœur d'Amine qui a été tuée par balle.
Absolument.
Donc du coup, on va l'écouter et puis on revient pour la suite, s'informer autrement sur le racisme. Donc on écoute Kerry James, Amal.
Amel a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Tesse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas la jet set. Papa étage en nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seule, entourée de 4 frères. Dans la misère, ça forge le caractère. C'est les années 80, l'époque est paro. Un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de Tessie, qui a plus de vécu que des rappeurs qui s'inventent des vies. Elle sera jamais du genre à se laisser marcher dessus. Amel a tellement pris de coups qu'elle ne les sent plus. Amel a tellement pris de coups. Amel a un petit frère qui s'appelle Amine. On n'échappe jamais à ce que Dieu nous destine. Amine est fougueux, Amine n'a pas froid aux yeux. Pur produit de la banlieue, Amine joue avec le feu. Incarcéré à 13 piges, le juge l'assassine. Plus jeune détenu de France, son avenir se dessine. Amel a beau écrire au tribunal, rien n'y fera. On passe pas tous entre les gouttes comme Alexandre Benalla. Son incarcération sera destructrice. Amine vit cet emprisonnement comme une injustice. Amine vomit le système, Amine à la rage. Amine finit dans les braquages. En tout, 17 années de placard. Amel enchaîne les courriers et les parloirs. Les gens t'oublient quand on t'incarcère. Amel ne lâchera jamais son petit frère. À 29 ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Puisqu'ils ont tué son petit frère, contre le système, Amel part en guerre. Le flic prétend la légitime défense, n'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance. Les médias répandent la version policière. En France, personne ne pleure sur le sort d'un gangster. Ses parents vivent dans la peur, mais Amel ne lâche rien. Et elle finit par trouver des témoins. Malgré les faits et les preuves amassées, le flic est acquitté au premier procès. Choquant. Même le procureur fait appel, une balle dans le dos, ça ne peut être accidentel. Amel poursuit la bataille, elle puise son courage au plus profond de ses entrailles. Elle s'oublie elle-même, met sa vie de côté, elle a un mari qui l'aime, la soutient dans l'adversité. Parfois Amel a des idées noires, un
désir de vengeance, inonde son désespoir. Devant l'incompréhension, des fois elle pense au pire. Œil pour œil, dent pour dent, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'elle risque de prendre un mauvais tournant, Dieu lui accorde un troisième enfant. Un petit garçon, beau, hanin. Il lui ressemble tellement qu'elle l'appelle Amine. Sur la haine, l'amour reprend le dessus. À force de résistance, elle trouve enfin une issue. Après 5 ans de lutte acharnée, le flic est enfin condamné. Amel respire, Amel retrouve le goût de vivre, Amel désire. Amel a des projets, Amel sourit. Amel a le cœur qui bat, Amel fleurit. Plus de place pour les incertitudes, Amel reprend les études. À 40 ans sur les bancs de la fac, Amel veut devenir avocate. Elle pense aux autres, ouais. Elle n'oublie pas Amine, alors elle pense aux nôtres, ouais. J'écris son histoire pour ne pas oublier ce qu'on peut faire avec de la volonté. T'as vu, nos sœurs sont belles, immense et le courage qu'elles portent en elles. 10 ans après, fallait que je le répète, on n'est pas condamné à l'échec.
Donc on va continuer à parler du racisme. La dernière fois, on avait entendu Mathilde Larrère revenir sur l'histoire du racisme et du coup en expliquant que c'était aussi que c'était une idéologie construite pour justifier l'esclavage dans un premier temps et qui permettait de justifier la ségrégation, le colonialisme, voilà, c'était une histoire qu'on se raconte pour justifier que les Noirs étant inférieurs, eh ben, on peut en faire ce qu'on veut. On a aussi montré dans les témoignages, même dans la chanson qu'on vient d'écouter, que en fait, les violences racistes, elles sont toujours là. Donc si le racisme ne tient plus dans le sens scientifique, du terme, comment on justifie aujourd'hui notre politique raciste? Comment Et alors là, on va écouter encore Pierre Thévanian, qu'on a entendu la semaine dernière, pas mal. Donc là, il va parler d'un de nos nouveaux moyens de justifier notre politique raciste, c'est l'islamophobie. On l'avait dit rapidement la dernière fois. Il va l'expliquer un petit peu mieux. Et donc là, on va l'entendre, et en fait, on l'entend parler en fait d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle « La haine de la religion », « Comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche ». Et donc voilà. Donc là, il va expliquer pourquoi l'islamophobie c'est du racisme et développer un petit peu. On l'écoute.
Sans arrêt se battre contre des gens qui sont sincèrement convaincus que l'islamophobie c'est autre chose que du racisme. Souvent ce qui est dit c'est que l'islam n'est pas une race, l'islam est une croyance religieuse, et donc l'islamophobie serait simplement un discours d'hostilité à une idéologie, à une religion aussi légitime que l'antilibéralisme ou que l'anticommunisme. Donc ce serait une opinion politique, ce serait simplement une religion qui serait critiquée. Là où moi je pense qu'il s'agit en fait d'un racisme, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, une première remarque, c'est que s'il fallait qu'il y ait des races pour qu'il y ait du racisme, il n'y aurait pas de racisme. Parce que à ceux qui me disent « mais musulmans, c'est pas une race, donc l'islamophobie ne peut pas être un racisme », je réponds « mais alors si vous pensez qu'il y a de l'antisémitisme, c'est que vous pensez qu'il y a une race juive, et si vous pensez qu'il y a du racisme anti-noir, c'est que vous pensez qu'il y a une race noire ». Donc le racisme n'a jamais été l'hostilité à une race objectivement existante, mais la construction d'une population, d'un groupe de population, en tant que race. Dans les formes récentes, effectivement, de réactivation de l'islamophobie, du discours anti-musulman, ciblant les musulmans, oui, la laïcité est plus qu'un rouage, c'est, avec le féminisme, les deux principaux ressorts argumentatifs, les deux principales légitimations, les deux manières de faire passer du racisme pour autre chose que du racisme, et de faire passer une politique réactionnaire et liberticide pour quelque chose de non seulement respectable, légitime, mais même distingué et progressiste. Donc la laïcité, effectivement, un principe, une machine politique, moi je dis, hein, c'est une invention politique, c'est une manière de réguler, de vivre ensemble. Le problème, effectivement, c'est que la laïcité, telle qu'elle est aujourd'hui brandie, instrumentalisée, telle qu'elle se traduit dans des lois, et des lois qui sont votées dans une espèce de consensus national droite-gauche un petit peu effrayant, c'est exactement le contraire. Ça n'a rien à voir, et c'est même à beaucoup d'égards le contraire de ce que sont et de ce qu'ont été pendant un siècle les lois laïques, les lois Ferry-Goblet sur l'école, ou la loi de 1905 de séparation des autorités politiques et religieuses. Puisque, pour le dire vite, d'une laïcité qui est justement la garante de la liberté d'expression et de pratique religieuse pour tous et pour toutes, sans privilège pour les uns, ni discrimination pour les autres, on fait rigoureusement le contraire, c'est-à-dire une série d'injonctions à la neutralité, l'invisibilité, l'effacement, la non-expression de ses convictions, adressées à une partie et une partie seulement de la population, toujours la même, les personnes de confession musulmane. Donc que ce soit l'interdiction du foulard à l'école, alors que l'impératif d'une neutralité de l'élève ne s'est jamais posé, n'a jamais été posé, ni par le législateur en 1880, ni depuis, vraiment, par un mouvement d'opinion ou un débat politique quelconque, et qu'on le pose uniquement quand il commençait à y avoir des signes religieux ou des vêtements religieux ou des expressions religieuses musulmanes. Donc que ce soit pour la loi d'interdiction du voile à l'école, la loi anti-niqab, mais que ce soit tous les débats dans lesquels on va ressortir le mot laïcité, hein, prière de rue, minaret, menu halal, à chaque fois ce qui est en cause, c'est uniquement des musulmans et le fait que leur islamité est visible. Tout simplement, et ça va jusqu'aux agressions, aux actes de délinquance les plus caractérisés, c'est-à-dire les injures, les agressions physiques, il est rare qu'elles soient commises sans que l'agresseur prononce et s'auto-légitime, avec après plus ou moins de complaisance des témoins et éventuellement de la justice, mais en tout cas, l'agresseur lui-même se légitime en employant ce mot laïcité. C'est-à-dire qu'il se sent dans son bon droit en agressant cette personne parce qu'il se sent, j'ai presque envie de dire sincèrement, en état de légitime défense de quelque chose à quoi il tient, qui s'appelle laïcité.
Voilà. C'est assez clair. Non, mais hein.
C'est super intéressant. Mais en fait, là, c'est l'instrumentalisation de la laïcité par les gouvernements depuis le début de on va dire, Jules Ferry, c'est la Troisième République, là, après la Commune, là, l'écrasement de la Commune. Bon, c'était de pire en pire. Ouais, c'est de pire en pire.
Moi, ce que je trouve aussi, c'est que, enfin, il y a l'État, mais en fait, il y a énormément de personnes qui ont accaparé ce discours-là et qui se sentent foncièrement pas racistes. Mais vraiment, c'est un problème, en fait, cette religion, quand même, ça pose des problèmes d'intégration, de ceci, de cela. Il y a vraiment un truc très fort, je trouve, très, 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 très pénible, quoi, dans les débats.
En fait, ce qu'on a commencé à entendre la semaine dernière et là, c'est montrer comment le racisme est une construction complètement fausse, fictive, fantasmée. On crée des catégories et on les enferme dans des catégories comme ça pour justifier après les pires comportements, quoi. Sauf que, et sur la laïcité, c'est un peu la même chose. Il y a un fantasme qui a été fabriqué politiquement du vivre ensemble, en disant la religion n'a pas sa place dans une république laïque, dans une république où, entre guillemets, qui se construit contre l'autorité religieuse, c'est-à-dire contre une espèce de texte sacré. C'est compliqué parce que... En fait, notre société moderne, elle est issue d'une histoire religieuse. Et du coup, ce discours de la laïcité républicain, comment dire, une espèce du fantasme de l'égalité, etc., c'est complètement fantasmé, puisque on oublie d'où on vient, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il l'a dit très clairement, en fait, là, ce que... Il y a le fantasme d'une société qui serait, comment dire, presque la meilleure, puisque regardez, on prône l'égalité, on a évacué tout ce qui serait sacralité, texte sacré qui viendrait nous dire ce qu'il faut faire. Du coup, nous sommes vraiment des démocrates, vous voyez ce que je veux dire ?
Mais du coup, la laïcité, c'est pour ça le titre de son truc. C'est, ça devient une nouvelle religion qu'il faudrait défendre à tout prix.
Ouais.
Et dont, en plus, on se trompe sur les principes de base. C'est anti-laïque d'être islamophobe.
Mais, ouais.
Il continue, en fait, avec... il dit, en gros, il y a deux ressorts argumentatifs que les laïcards utilisent, quoi, dans la laïcité pour légitimer l'islamophobie et le féminisme. Et le féminisme, c'est quand même assez fort aussi. Et là, c'est un peu plus court et il va pousser un peu la logique un peu plus loin sur cette idée de le féminisme qui est complètement absurde, évidemment. On l'écoute.
En tout cas, il n'existe aucune femme qui viendrait dire parce que telle pratique vestimentaire, tel décolleté, tel vêtement, ou même la pornographie est un traitement dégradant de la femme, alors il faut une loi qui punit les femmes qui le font. Je pense que même parmi les féministes les plus abolitionnistes, qui ont les positions les plus manichéennes, les plus hostiles à tout ce qui est pornographie, même parmi les féministes qui disent la pornographie est nécessairement une dégradation de la femme, aucune n'en tire la conclusion que c'est la victime de ce qu'elle estime être une violence univoque qui doit être punie. Or, c'est quand même un cas unique, ce féminisme entre guillemets qui se déploie lorsqu'il s'agit des femmes voilées, c'est que, et pareil pour la loi anti-niqab, c'est que c'est une dégradation de la femme, donc il faut une loi qui punit qui ? La femme, qui le porte. Et qui, non seulement, les réprime, mais les réprime comment ? En les privant, c'est quand même, il faut quand même le souligner, pour la loi de 2004, de l'accès à l'école publique, c'est-à-dire, là aussi, quand on connaît l'histoire du féminisme, ça fait froid dans le dos, c'est-à-dire quand même un des principaux vecteurs d'émancipation, connaissance, diplôme, insertion sociale, insertion professionnelle, et pour la loi anti-niqab, traverser de l'espace public. C'est-à-dire, on renvoie les femmes, on renvoie les élèves hors de l'école, donc dans les limbes, dans un no man's land scolaire, et on renvoie les femmes adultes portant niqab entre leurs quatre murs.
Voilà. Donc, ce que je trouve, moi, ce que je trouve assez fou, c'est quelque part, en fait, comme on peut pas dire qu'on est raciste au sens de la race, et ben du coup on trouve des stratégies pour niquer la gueule à des gens, en gros, mais semblent intellectuellement se tenir ou être politiquement correct ou je ne sais quoi. Voilà, c'est vraiment, et c'est de la bouse intellectuelle, quoi. Enfin, je veux dire, ça tient pas deux minutes, quoi. Mais je trouve, enfin moi, c'est des trucs que j'ai beaucoup entendus et chez des gens qui se réclament à gauche. Donc c'est un truc qui m'agace un peu, et donc pour ça que j'avais envie d'en causer aussi. Voilà. On s'était dit qu'on allait revenir au rapport dont je vous parlais la dernière fois. Donc rapport lutte contre le racisme de 2016, où en fait on avait parlé d'indices de tolérance par minorité. Donc du coup, on avait aussi écouté Thévagnan qui disait à quel point la tolérance c'est une vertu raciste, et que c'est pas on lutte pas contre le racisme en disant allez, soyez tolérants les gens. Et en fait, il y avait donc dans le rapport l'indice de tolérance mettait en avant du coup des populations des minorités dans un ordre du coup les plus détestés, quoi, aux minorités les plus aimées, ce qui est déjà un petit peu particulier. Toi, Charline, il y avait un truc parce que donc la minorité la plus haïe, c'est les Roms. T'avais un truc à conseiller, parce qu'on n'entend pas souvent parler des Roms, justement, et ça sera pas le cœur de notre sujet. Mais toi, t'as écouté des trucs.
Oui. Je sais pas si on m'entend.
Oui, du coup, il y a deux podcasts que je pourrais recommander. Il y en a un qui s'appelle La Poudre. C'est du coup une émission féministe qui est animée par Lorraine Bastide et qui est produite par Nouvelles Écoutes. Et donc, du coup, c'est des discussions qui durent à peu près une heure avec une femme, du coup, par émission. Et l'épisode 44 est avec Salkoutsa Filan, qui est du coup une femme rome. Et c'est vachement intéressant parce qu'on a très peu, je trouve, l'occasion d'entendre des personnes roms et notamment des femmes roms s'exprimer. Et il y a aussi un épisode de Kif Taras, qui est aussi un podcast qui veut explorer toutes les questions raciales, pareil sur le mode de la discussion, qui est animé par Rokaya Diallo et Grace Lee. Et du coup, là, c'est l'épisode 14 qui s'appelle « Roms, les oubliés de l'antiracisme ». Et du coup, c'est pareil, c'est avec une autre femme rome dont j'ai oublié le nom. Et du coup, on a ça offre deux témoignages assez différents, parce que c'est deux portraits complètement différents de femmes qui appartiennent toutes les deux à la communauté rome, mais qui n'ont pas du tout le même parcours de vie ou quoi, et c'était vachement intéressant.
Cool. Et donc après, dans ce fameux toujours ordre-là, il y avait donc les musulmans qui arrivaient après, et la catégorie qui est maghrébin. Les Noirs et les Asiatiques, les Juifs. Il te semblait, toi, du coup, qu'il y avait des absents ?
Oui. Je me suis dit, du coup, après coup, qu'on n'a pas les Métis dedans. Et c'est vachement intéressant parce que, du coup, je pense que dans la société actuelle, les personnes Métis ont beaucoup de mal à trouver leur place. Et ça se voit, du coup, là, rien que dans cette étude, il n'y a pas de place pour les personnes métisses. Et du coup, moi qui suis une personne métisse, par exemple, en France, je ne suis pas considérée comme... je suis considérée comme noire. Et en Côte d'Ivoire, du coup, je suis considérée comme blanche. Et j'ai très rarement l'occasion de juste dire je suis un mélange des deux, finalement. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Et voilà, je pense que c'est intéressant de souligner ça aussi, qu'il n'y a pas de catégorie... métisse dans cette hiérarchisation.
Ouais. Alors, depuis, du coup, cette discussion qu'on a eue, j'ai trouvé aussi le Pape Ndiaye, qui est un historien français qui est métisse et à qui on pose la question de qu'est-ce que c'est être noir. Et j'ai trouvé que sa réponse était intéressante aussi. On va l'écouter.
Et donc, il me semble que la seule réponse possible, c'est une réponse sociale, c'est-à-dire... et noir, une personne qui est généralement considérée comme telle, une personne qui fait l'expérience dans sa vie d'être vue comme noire, indépendamment de la manière dont elle peut se ressentir, il y a quelque chose, il y a un fait, le fait d'être noir, comme disait Fanon dans les années 50, qui s'impose à soi dans un certain nombre de relations sociales. Moi, par exemple, on peut me considérer généralement comme métisse, je suis un citoyen français, mais je fais l'expérience d'être noir. Plutôt que de rejeter cette expérience et de la considérer comme étrangère à mon être profond, je l'incorpore dans mon portefeuille identitaire. J'essaye d'en faire quelque chose pour peu qu'on ne me réduise pas simplement à ce qualificatif-là. Je suis un Français noir, mais je suis aussi bien d'autres choses. Et je ne me réduis pas à cela. Je suis noir aussi par dignité, par sentiment de solidarité avec celles et ceux qui font l'expérience d'être noir et en souffrent du point de vue de leur accès aux biens rares, comme disent les économistes, pour trouver un logement, pour trouver un travail, également dans leur relation avec la police.
Ah, je trouvais intéressant ce qu'il dit sur l'expérience d'être noir. Finalement, c'est pas parce que tu te... Enfin, c'est les autres qui te définissent, en fait, tel. Et en fait, que tu le veuilles ou non, quelque part, voilà.
Oui.
Dans un truc de justification du racisme, on voit qu'en fait, du coup, les musulmans arrivent en bonne tout de suite après les Roms, en fait. Et du coup, ça pourrait presque laisser entendre que finalement, les Noirs, c'est une minorité qu'on aime un peu plus, quoi. Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a énormément aussi de choses autour de ce qu'on appelle la négrophilie. et qui est une autre forme de racisme, où en fait c'est associé du coup des choses positives à la catégorie noire, mais en fait c'est le même mécanisme de racisme, et donc c'est tout ce qui va avoir avec le noir et du côté de la nature et pas du côté de la culture, et donc il danse bien. Il y a, tu vois, tout ce truc en fait associé qui peut être dit de manière positive, mais en fait qui est une même forme de racisme et une forme de aussi hiérarchiser, en fait, de dire clairement, vu que nous on est du côté de la culture, on est quand même supérieur, quoi. Donc c'est assez puissant. Qu'est-ce que j'avais ? Ah oui, il y a du coup aussi au niveau de être noir, qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de teintes de couleurs parmi les blancs comme parmi les noirs. Il y a quelque chose autour qu'on appelle le colorisme, où on voit aussi que en fait c'est pas le même traitement qu'on va avoir avec des personnes qui ont la peau plus claire, noire mais claire, qu'avec la peau très noire. Et du coup, là, il y a un petit... on va écouter, alors je ne sais plus. Je vais vous dire après qui c'est qui parle, parce que je ne me souviens plus. Ah si, c'est Naya Ali, qui fait une petite vidéo sur YouTube et qui parle d'un livre qu'elle a lu de Toni Morrison, qui s'appelle « Délivrance », et qui parle de colorisme. Et on va écouter un petit extrait.
Le colorisme, c'est une hiérarchisation de la couleur de peau au sein du même groupe ethnique. Il se traduit par une discrimination des peaux les plus foncées et plus d'opportunités sociales, de travail, amoureuses, etc. pour les personnes les plus claires de peau. Le phénomène, il est remarquable chez les Noirs, mais aussi chez les Asiatiques. Dans beaucoup de pays asiatiques, la peau foncée est synonyme des travailleurs des champs, des gens les plus pauvres, de ceux qui travaillent à l'extérieur, alors que la blancheur, la peau claire, est synonyme de bourgeoisie et de richesse. Ce qui était une valeur d'antan se reflète dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Inde, vous avez le cinéma bollywoodien qui favorise largement les personnes claires de peau au détriment des personnes les plus foncées. Et donc se développe un business de produits esthétiques pour s'éclaircir la peau, parce que y a beaucoup de femmes et quelques hommes qui veulent s'identifier à ces acteurs comme signe de réussite, parce que c'est les personnes les plus claires qui réussissent, alors les personnes veulent s'éclaircir la peau pour correspondre à ce modèle que les médias vendent. Et c'est valable aussi dans de nombreux pays africains où il y a un énorme business du blanchiment de la peau. Des femmes noires se blanchissent la peau pour correspondre à un critère de beauté. Ça a une connotation historique puisque au temps de l'esclavage, les esclaves très noirs travaillaient dans les champs, faisaient les travaux les plus difficiles, et les noirs clairs de peau ou les noirs métisses pouvaient faire les travaux d'intérieur. Le colorisme est bien entendu aussi visible dans les pays occidentaux, où par exemple on va voir des séries américaines où les noirs qui sont présents sont souvent clairs de peau. C'est assez rare de voir une personne très noire interpréter un rôle dans une série ou dans un film. Dans le milieu de la mode, c'est aussi pareil. Les couvertures de magazines pendant des années ont été occupées par des femmes à la peau claire, voire très très claire, et aux traits assez fins. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont reproché à Beyoncé d'apparaître sur les couvertures de magazines avec la peau très très éclaircie. Ce qui donnait l'impression aux Noirs qu'ils peuvent réussir, mais quand même avec une peau claire. Ce livre, Délivrance, est un bon moyen pour vous de comprendre la question du colorisme. C'est un bon moyen pour vous de comprendre la manière dont sont perçues les personnes très foncées de peau. Au-delà de subir le racisme de la part des groupes dominants extérieurs, ils subissent des discriminations dans leur propre groupe ethnique.
Voilà. Du coup, on va aussi aller chercher un peu du côté de l'histoire aussi. En fait, si le colorisme existe, c'est aussi donc toute une série de choses qu'on a intégrées et que donc nous ici en France, mais aussi donc partout dans le monde, en fait, on voit qu'il y a ces histoires de couleurs. Et en fait, on va peut-être revenir à la colonisation et à Frantz Fanon, qui a beaucoup réfléchi. Donc il a écrit « Peau noire, masque blanc », entre autres. Il a travailler sur le comment, en fait, quand on est colonisé, comment on est acculturé, en fait, et comment il y a la culture de l'oppresseur arrive, s'infiltre, et du coup, sur aussi toute la notion qu'il y a derrière le noir et le blanc dans notre langage, et tout ce qui est associé, le noir, la sauvagerie, etc. Et que, en fait, rien que par la langue, en apprenant la langue française, et les histoires qu'on se raconte, etc., comment le noir est entaché, déjà, de base. Alors, on va l'entendre sur un petit extrait, parler d'aliénation, et j'ai fait le plus court possible, parce que le son est pourri. Voilà, on va écouter Franz Fanon.
Mais l'homme visé par ce racisme, le groupe social asservi, exploité, désubstantialisé, comment se comporte-t-il? Quels sont leurs mécanismes de défense? Quelles attitudes découvrons-nous ici? Dans une première phase, on a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. L'oppresseur, par le caractère global et effrayant de son autorité, en arrive à imposer à l'autochtone de nouvelles façons de voir, singulièrement un jugement péjoratif à l'égard de ses formes originales d'exister. Cet événement, désigné communément aliénation, est naturellement extrêmement important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d'assimilation. Ayant jugé, condamné, abandonné ses formes culturelles, son langage, son alimentation, ses démarches sexuelles, sa façon de s'asseoir, de se reposer, de cracher, de rire, de se divertir, l'opprimé avec l'énergie et la ténacité du naufragé se rue sur la culture imposée.
Voilà. Donc là, il parle vraiment de comment on intériorise aussi toute une série de valeurs. Et je voulais aussi, dans la justification du racisme, il y a aussi l'histoire. Le fait de se dire en fait que l'Occident est arrivé à découvrir des endroits du monde où il n'y avait pas la même technologie. Et donc ça, c'est un truc aussi assez fort sur lequel notre imaginaire pense en fait que ben ouais, on a apporté toute une série de choses qui n'existaient pas, et donc il y avait un peuple sans histoire. Sarkozy l'a dit il y a quelques années d'ailleurs. Et du coup, on va écouter en fait Cheikh Diop, un Sénégalais, historien sénégalais, pour qui va parler de ce sujet-là.
Le colonialisme nous a amenés à douter de nous-mêmes à telle enseigne que, comme vous le disiez tout à l'heure, Afrique est devenue presque au niveau du subconscient de chaque Africain antinomique avec la notion de civilisation. Quand on pose le problème du monde noir, il est intimement lié à l'émergence de la civilisation. C'est effectivement un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité, alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. La falsification a commencé, je vous l'ai dit, à partir de la naissance de l'égyptologie réellement. Lorsque Champollion a déchiffré les hiéroglyphes et qu'on a vu que la civilisation égyptienne est la plus ancienne de toutes les civilisations de la Terre, il était devenu inconcevable que le peuple qui va être asservi, qui était déjà asservi depuis quatre siècles, n'est-ce pas, put être à l'origine de la civilisation humaine. Et là, des savants, n'est-ce pas, dont les noms doivent être connus parce qu'ils ont réellement commis un crime contre l'humanité, des savants comme Champollion Figeac, Champollion le Jeune, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes était un savant de bonne foi. Mais Champollion Figeac, son frère, Maspero, Brester, voilà la ligne des savants qui ont falsifié sciemment l'histoire, qui ont contribué à dissoudre la conscience historique des peuples africains, à effacer totalement l'histoire derrière ces peuples, de façon que les civilisations africaines aujourd'hui apparaissent comme suspendues en l'air.
Donc, bon, désolé encore pour le sang pourri, mais Charanta Diop, il revient, il y a des vidéos qu'on trouve où il rappelle qu'il y a eu tout un énormément de polémiques autour de ses travaux. Et en fait, même sa page Wikipédia vaut le détour parce que, en fait, il y a des discussions à n'en plus finir sur Wikipédia, sur la validité ou pas de ses thèses, etc. Donc, il y a des choses qui valent le coup, qui ont été critiquées depuis dans ses travaux. Par contre, le fait la civilisation égyptienne était noire, oui, ça a été prouvé. Et c'est fou que ça puisse faire des scandales comme ça. Et ça m'a fait penser un peu à Françoise Héritier, c'est une anthropologue qui a beaucoup étudié le patriarcat et a cherché à voir quelle était l'origine du patriarcat. Donc elle le fait remonter à la nuit des temps, des sociétés humaines, et au fait que en fait, pour elle, le point de départ, c'est les femmes ont le pouvoir d'enfanter et que c'est la peur en fait des hommes de ce pouvoir-là des femmes qui les a fait organiser la société en s'échangeant le corps des femmes. Donc par plein d'institutions après, hein, le mariage, plein de choses, quoi. Et ce que je me disais en écoutant Charanta Diop, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc autour de l'origine, le fait qu'on sache qu'on vienne de l'Afrique, soit un truc fondamentalement inacceptable, et que du coup, ben après, on imagine toute une série de choses qui permettent de surtout pas admettre ça, quoi. Alors, j'en sais rien, mais en tout cas, ça semble être... quelque chose de difficile à faire passer. Voilà. On a déjà pas mal causé. Alors, il nous reste encore plein de trucs. Peut-être, vu que j'ai fait le parallèle. Je reviens à Pierre Thévagnon. Lui, il a essayé aussi de voir c'était quoi la mécanique raciste. Et il a mis des étapes comme ça, comment nous, on se construit ça. Et en fait, une femme qui a fait le parallèle avec le sexisme. Et on voit qu'en fait, ça rentre... les étapes mis en lumière par Pierre Thévagnon pour le racisme, ça, c'est exactement la même chose pour le sexisme. Donc aussi, on pourrait faire la même chose pour le validisme, etc. Et du coup, il y a un petit court-métrage qui a été fait sur la mécanique sexiste. On va l'écouter, c'est un petit peu cucu comme ça, le ton et tout ça, il y a une petite musique derrière et tout, mais en même temps c'est très très clair, et du coup après on n'a qu'à faire le parallèle, c'est la même chose en fait pour la mécanique raciste. On va écouter ça.
La première étape de la mécanique, c'est la focalisation. Il s'agit de prendre un critère arbitraire, la taille, le sexe, la couleur de la peau, et d'en faire quelque chose qui définisse une population. Les femmes ne sont plus seulement des personnes, elles sont aussi et surtout des femmes. Elles partagent un certain nombre de critères communs, comme le fait d'aimer les enfants et d'en vouloir, d'avoir les cheveux longs, d'être coquette. Il n'y a plus seulement des femmes, il y a les femmes, voire même la femme. La deuxième étape, c'est la différenciation. Les femmes ne sont plus seulement toutes pareilles, elles sont en plus très différentes des hommes. Les femmes ont les cheveux longs et les hommes les cheveux courts, les femmes privilégient leur vie de famille et les hommes leur carrière, elles font de la danse et ils jouent au foot. On renforce le contraste entre les deux groupes qui nous paraissent bien plus différents qu'ils ne le sont en réalité. Ensuite, c'est la péjoration. Ce qui était d'abord une différence devient une marque d'infériorité. Pour le sexisme, ça peut être assez franc, Une femme n'est pas douée pour bricoler, conduit moins bien, ne sait pas se défendre. Mais ça peut aussi prendre la forme plus subtile d'un sexisme bienveillant. Dire que les femmes font mieux la cuisine ou sont multitâches, ce qui devient un prétexte pour les laisser s'occuper de tout à la maison. Ou dire que les femmes sont plus sensibles, ce qui est une façon de dire qu'elles sont en fait plus en proie à leurs émotions et qu'on ne peut pas leur confier de décisions importantes. À ce stade, les femmes sont toutes pareilles, toutes différentes des hommes, et plutôt moins bien qu'eux. La dernière étape, c'est la légitimation. On s'appuie sur les trois étapes précédentes pour justifier les inégalités de traitement du système dans son ensemble. Ben oui, les femmes aiment toutes les enfants, et elles en veulent. Contrairement aux hommes qui privilégient plutôt leur carrière. Du coup, les femmes sont moins compétentes et moins expérimentées au travail. Et finalement, c'est logique qu'elles soient moins représentées aux postes les plus importants. Et voilà, la boucle est bouclée. Sans être vraiment sexiste moi-même, j'ai intégré tout un tas de stéréotypes qui font que le système sexiste me paraît regrettable, mais presque normal. C'est le syndrome du « je ne suis pas sexiste, mais… » Ces réflexions, nous les avons tous et toutes. En prendre conscience, c'est déjà le point de départ pour constater les inégalités, développer notre empathie à l'égard des personnes qui les subissent, et pourquoi pas essayer d'enrayer cette mécanique en arrêtant d'abord de focaliser et de différencier, pour ne pas permettre la péjoration et la légitimation des injustices. Pensez-y la prochaine fois que vous commencerez une phrase par « c'est vrai que les femmes… »
Ne seriez-vous pas en train d'alimenter la mécanique sexiste ? Alors je viens d'avoir mon portable qui vient de tomber en rade, mais c'est parce que j'avais oublié de le brancher. Charline, tu voulais nous parler d'un bouquin ?
Oui. Moi, je voulais parler de Noir n'est pas mon métier. Du coup, c'est un livre qui a été écrit collectivement par 16 femmes comédiennes, actrices noires ou métisses. Et du coup, c'est un essai qui se veut être un peu... qui se présente un peu comme un livre manifeste et qui exprime du coup des témoignages et des réflexions d'actrices et comédiennes. Du coup, j'avais préparé un extrait à lire. Je sais pas si c'est le bon.
Okay. Ouais,
du coup, je vais le lire. C'est un extrait du coup des réflexions de Maimouna Gueye, qui est du coup une comédienne et qui moi m'a particulièrement touchée parce qu'elle raconte. Au commencement, le doute. Les souvenirs de la dame en noir et ma première pièce que j'interprétais camouflée dans une tenue de clocharde. Puis la deuxième. Bambi, elle est noire, mais elle est belle. Et encore et toujours les mêmes remarques. Certains journalistes oubliaient parfois mes mots pour ne parler que de mon corps, qu'ils avaient comme un besoin irrépressible de qualifier d'envoûtant, avec de longues jambes comme des lianes, une souplesse de gazelle. Zut alors, j'ai raté mon coup. Moi qui voulais être crédible. Je ne suis donc bonne qu'à ça. Érotiser ainsi mon corps, n'est-ce pas un moyen de me réduire à un objet silencieux, de l'anesthésier et d'abîmer ainsi mon outil de travail, de voler ma candeur ? Quand cessera ce subterfuge intolérable ? J'attends de comprendre et de renaître de mes cendres. Ça commence mal. Mon corps et moi, mon corps et eux, est-ce qu'on ne tourne pas encore dans ce cercle vicieux de la pensée dite dominante, d'une certaine colonisation des temps modernes, ce regard encore pesant, condescendant et sexualisé sur le corps noir. L'ascension vers la gloire est-elle alors un marché, le corps sa marchandise ? Je suis face à un trou noir. Aujourd'hui, je m'affranchis de ce rôle, je refuse de devoir assouvir vos terribles appétits pour briller. Plus je me pose de questions, plus je me vide de mon énergie. Je vacille alors que l'esprit doit être libre pour pouvoir s'alimenter. Peut-on être libre alors que ce métier qui se dit humain, familial, ne reconnaît pas ses enfants quand ils sont différents. Me voilà saoulée. Impossible pour moi de basculer dans votre sens sous prétexte que vous avez la science infuse. Non, je ne veux pas boire ce bol d'immondice. Ras-le-bol. Aujourd'hui, mon corps a muté, mais il ne doute plus. Il laisse épanouir ses rondeurs, remplies de vie. Il ne veut pas renier sa métamorphose. Il ne veut plus être l'objet d'une stigmatisation de la femme noire. Mon corps n'est pas un terrain d'expédition. Je voudrais le voir en mouvement, dans un espace riche de sa couleur. Il veut prendre sa place. On parle souvent de creux et de vide. Moi, j'aimerais qu'on me remplisse de mon plein de création et non qu'on me vide de mon essence. Mon corps ne peut pas se courber sous le joug des convenances, de la peur, du regard de l'autre. Il est loin d'être docile, alors prenez-le tel qu'il est. Je ne veux plus avoir à convulser tellement je suis remplie de sanglots et j'aimerais bien ne plus être esquintée, ne plus être au garde à vous, mais être, tout simplement. Être moi, femme noire, comédienne et noire. Pas black, non. Ça aussi, c'est encore un moyen de contourner les angles. Droite au but, balle au centre, cocorico. On est en France, non? On y parle français, c'est bien ça? Eh bien, soyons cohérents alors. Je suis noire. N'ayez pas du mal à le dire, car cela devient louche à la fin.
Voilà. Merci.
Mais de rien.
Beau livre. Donc du coup, et ben pour la prochaine midinale, il va nous rester pas mal encore de cette fois-ci plus de témoignages en fait de personnes racisées qui racontent en fait qu'est-ce qu'elles ont l'habitude d'avoir en gros dans la tronche pour essayer de aussi nous désintoxiquer de trois trucs au passage. Ouais, et on parlera aussi d'intersectionnalité parce que on sait aussi que c'est pas toujours simple de savoir d'où vient la discrimination. Est-ce que c'est parce que je suis noire? Est-ce que c'est parce que je suis pauvre? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Et est-ce que c'est parce que je cumule tout ça? Et on va faire une petite pause musicale avant ça. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Je crois que j'avais ah oui. Il y avait Charline qui avait conseillé d'écouter Lily de Pierre Perret sur le sujet, qui est aussi dans la playlist. Et j'ai sélectionné en plus Cazet, Créature ratée, qui parle de ça aussi. On commence par aller Pierre Perret, après Cazet, et on revient. À tout à l'heure.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.